Histoire, Xavier Mauduit.
Fou d'histoire, pour donner la parole à ceux, à celles qui ne sont pas historiens, pas historiennes, mais qui portent une histoire et qui transmettent le goût de passé à travers leurs œuvres, qui elles-mêmes s'inspirent de l'histoire. Le kiosque des noctambules, les larmes de couleur, les belles danses, la fontaine des cœurs renversés. Jean-Michel Othoniel est un magicien du verre, un artisan aussi. Son œuvre est un voyage qui nous conduit de Murano à Angoulême, mais aussi jusqu'en Inde. Un long voyage pour cet artiste né à Saint-Étienne. Allez les Verts, à Jean-Michel Othoniel, les supporters de la S Saint-Étienne. Non mais, vous, artiste spécialiste du verre, né à Saint-Étienne, prédestination.
Peut-être. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette chanson, mais Saint-Étienne, c'est aussi le deuxième musée d'art contemporain en France. Hein. C'est pas seulement le football.
C'est important de le souligner, le deuxième musée après le Centre Pompidou à Paris. Vous, dans votre parcours, le fait que ce musée existe et que vous le découvriez, soit quelque chose qui vous a conduit à réfléchir à ce qu'était le passé, à l'histoire, à la création?
Oui, parce que d'abord, le musée de Saint-Étienne, avant d'être un musée d'art contemporain, était un musée d'art et d'industrie, donc un musée d'histoire du travail, des savoir-faire. Et il s'est ouvert tout doucement à des collections contemporaines pour après avoir un très beau musée qui a été construit dans les années 80 et où qui accueille donc cette collection très importante.
C'est bien de le souligner, ce lien qu'il y a entre l'art industriel, on peut l'appeler comme ça, l'art contemporain, entre l'art et l'artisanat. Vous, dans votre démarche, on le sent bien, Jean-Michel Othoniel, il y a beaucoup de réflexions autour du geste de l'artisan. Cette réflexion qui nous conduit toujours vers des traditions, donc vers le passé.
Oui, parce que déjà, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup au savoir-faire, mais c'est surtout cette idée de travailler ensemble, de prolonger le geste en s'appuyant sur des gens qui sont des virtuoses, des gens qui maîtrisent un geste, un savoir-faire, un métier, et de diriger un peu ses équipes, un peu comme un chef d'orchestre. Oui, c'est ce que j'aime faire.
Vous êtes chef d'orchestre.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de corps de métier qui travaillent à la réalisation de mes œuvres. Donc évidemment, il y a les verriers, mais avant le verre, il y a quand même tout ce travail d'ingénierie, de dessin scientifique que je ne maîtrise pas. Moi, je dirais que je suis à la naissance de tout ça par des aquarelles que je dessine le matin dans mon atelier, avant de retrouver les différentes équipes qui vont m'aider à construire ces rêves ensemble.
L'aquarelle, c'est de l'eau, le verre, c'est le feu. C'est ce jeu constant hein, entre les éléments, entre ce qui reste et puis ce qui est fugace. L'œuvre d'art, c'est cela aussi, c'est s'inscrire dans un moment de l'histoire.
Bah, c'est apporter des moments, des petites pierres comme ça qui vont peut-être marquer la vie des gens. Et je crois que c'est surtout aussi le cas quand on fait des œuvres en espace public, ce que je fais beaucoup. C'est-à-dire que rencontrer des gens qui ne sont pas des gens qui viennent au musée ou qui vont dans les galeries, mais d'aller à leur rencontre. Moi, je suis vraiment pour que l'artiste descende dans la rue, fasse cet effort d'aller à la rencontre du public. Ouais.
Ça, c'est très important, hein, parce que faire des œuvres juste pour soi ou pour quelques collectionneurs, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que dans la création artistique, il y a ce que vous venez d'évoquer. Ça parle à un public et à un moment. Nous savons combien l'art est découpé en périodes et nous arrivons à identifier, quand on se balade dans les salles d'un musée, se dire « tiens, telle période ». C'est s'inscrire aussi dans cette histoire-là. Quand on voit les œuvres de Jean-Michel Othoniel, voilà, on sait à quel moment l'on est. En fait, ce sont des petites billes de verre, ces petites pierres que vous évoquez.
Oui, enfin, c'est surtout, je crois, des histoires, justement, que j'aime raconter. Chaque moment où je m'expose, je raconte une histoire. Alors, soit une histoire qui est destinée à rester quand c'est une œuvre pérenne en espace public, soit une histoire qui peut être un moment, comme par exemple l'expo que j'ai fait au Petit Palais l'année dernière, où justement, j'invitais le public à rentrer dans ce palais du 19e et découvrir ce lieu, découvrir l'histoire du lieu à travers mes œuvres et découvrir aussi l'architecture, le jardin, l'histoire de ce jardin. Donc c'était, j'aime bien scénariser mes expositions aussi.
Parce que l'œuvre n'a pas du tout le même sens où qu'elle est placée. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est votre démarche de réfléchir au lieu. Un écho, un dialogue sans cesse entre le lieu pour le Petit Palais. Bah oui, vous prenez en compte l'histoire même de ce lieu, vous travaillez comment ?
Bah, y a beaucoup de recherches au départ, parce que dans le cas du Petit Palais, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, parce que c'est pas un lieu dédié à l'art contemporain. Donc souvent, les lieux dédiés à l'art contemporain sont prêts pour recevoir des œuvres. Ce sont souvent des espaces blancs, avec tout un protocole dont certains artistes aiment jouer. Moi, j'ai plutôt tendance à vouloir pousser les limites, trouver d'autres lieux. C'est ce qui m'excite dans ma création. Et le Petit Palais était un terrain de jeu formidable. Parce que c'est une période déjà de l'histoire de l'art que j'aime beaucoup, qui est ce 19e siècle, avec ses architectures extraordinaires comme le Petit Palais, le Grand Palais, la Tour Eiffel, enfin toutes ces architectures festives qui en fin de compte nous sont parvenues aujourd'hui. Et la spécificité de ce Petit Palais, c'est qu'il a en son cœur un jardin. Et donc c'est un bâtiment construit autour d'un jardin. Et je me suis posé la question de qu'est-ce que c'était qu'un jardin au 19e siècle ? Et donc, chaque fois que je fais une exposition, j'apprends beaucoup de choses parce que je vais creuser sur des terrains que je connais pas forcément. Et notamment là, dans ce cas-là, je n'avais aucune idée vraiment quelles étaient les composantes d'un jardin 19e, à quoi il faisait référence, à quoi il servait. Et ça a été vraiment l'occasion de découvrir les folies de Huysmans. Ça a été l'occasion de me plonger dans ce rapport aussi aux fleurs tropicales, à ces choses qui nous arrivaient des pays lointains, des colonies, où on découvrait des plantes un peu inquiétantes. On ne savait pas si elles rendaient fous les gens qui les regardaient ou qui les sentaient ou qui les touchaient. Donc il y avait en même temps, c'était en même temps un jardin dans lequel on venait pour apprendre, pour découvrir des nouvelles espèces de plantes, et en même temps c'était un jardin comme tous les jardins dans lequel on venait s'échapper, s'évader. Oui.
Et dans cette démarche-là, c'est pas facile de ressaisir comme ça l'air du temps d'un moment. Qu'est-ce que c'est que cet air du temps pour le Petit Palais ? Ça nous conduit au début du XXe siècle. Faut se replonger aussi dans cette période-là. C'est pas facile, vous lisez les livres des historiens pour essayer de percevoir un peu ce que ça a pu être cette période.
C'est une période, oui, qui était étonnante parce que c'était un moment où on découvrait justement les ailleurs et ces grandes expositions universelles étaient faites pour nous ramener en France justement des choses qui venaient d'autres pays.
Et dans cette démarche, l'intérêt pour les jardins, il y a ce jardin du 19e siècle à Paris au Petit Palais, mais on peut aller pas très loin de Paris jusqu'à Versailles où là aussi il y a d'autres jardins.
La France est épuisée. Elle est malade. Elle a besoin d'un sang vif, d'un soleil neuf. Je rêve à Dieu autant que vous, ma mère, mais il semble que ce ne soit pas le même. Le vôtre se repaît d'ombre et de repentir. Il se lamente sur le passé. Il a peur de l'avenir. Le mien est le Dieu de la vie. Il me pousse vers la lumière. Ne vous déplaise à vous et à vos amis de noir vêtus. Je serai le fils aîné de ce Dieu-là et son représentant sur cette terre.
Le roi ! Danse ! Donnez la plus belle musique du monde au dieu Jupiter, maître de l'univers !
Le roi danse, le film de Gérard Corbiau en 2000. Là, nous sommes dans les jardins de Versailles. Jean-Michel Autoniel, alors bien sûr, il y a le Petit Palais à Paris, le jardin du 19e siècle. Mais au moment de réaliser une œuvre à Versailles, les jardins, les fontaines, c'est un univers qui s'offre à vous. Ça doit rendre extrêmement modeste, mais vous l'êtes modeste, ça s'entend dans votre discours. Comment on procède dans ces moments-là ?
Alors là, c'était un des moments peut-être les plus compliqués dans les différentes interventions que j'ai pu faire, parce que Versailles, évidemment, c'est une sorte de lieu intouchable. Et en même temps, il y a eu cette volonté de Catherine Pégard de transformer un bosquet abandonné, détruit par la grande tempête, en un jardin contemporain. Donc c'est un paysagiste contemporain, Lou Bénèche, qui est venu me chercher pour me dire, voilà, Versailles, c'était Lebrun, le nôtre, qui ont travaillé ensemble, donc un paysagiste et un sculpteur. Rejouons cette histoire un siècle et demi après. Et donc me voilà engagé à ses côtés pour faire des sculptures pour le jardin de Versailles qui n'en a pas eu de façon pérenne depuis Louis XVI. Donc c'était quand même un certain poids.
C'est énorme.
Et surtout comment faire le lien de cette grande histoire avec moi qui n'est rien de royal. Donc comment trouver ce lien. Et c'est vraiment là, en cherchant, et c'est passé par un voyage aux États-Unis à Boston, au Isabella Stewart Gardner, qui est un musée extraordinaire que je vous invite à visiter si vous allez à Boston, avec des collections incroyables qui n'ont pas bougé depuis la mort d'Isabella. Et dans ce musée, j'ai trouvé un livre extraordinaire qui sont les pas de danse dessinés par Feuillet, que Louis XIV avait commandé pour justement se souvenir de la danse branchée de l'époque, qui était la danse baroque. Et d'ailleurs, je vous invite, il y a une expo en ce moment au Centre National de la Danse qui parle de cette période, où j'ai les maquettes du projet de Versailles qui sont montrées, et qui explique comment cette danse était tellement novatrice, tellement nouvelle, qu'il fallait s'en souvenir. Et donc, il a été créé une sorte d'alphabet. Cet alphabet, la France est le premier pays à avoir écrit sa danse et transmis sa danse. Et Louis XIV, donc, comme on l'entend dans l'extrait que vous avez donné, était quelqu'un de très visionnaire. Et donc, ce soft power, grâce à la danse, il a eu envie de faire des livres qui publiaient ses pas de danse pour les envoyer dans toutes les cours d'Europe pour qu'on danse à la française. Et je suis tombé sur un de ses livres à Boston, alors que je m'arrachais les cheveux pour savoir comment faire le lien entre moi, sculpteur contemporain, et la grande histoire. Et c'est vraiment ces arabesques de cette écriture qui étaient tellement proches de mes sculptures, que ça a été cette clé, et je me suis dit, je vais refaire danser le roi sur l'eau, puisque Lou Bénèche avait transformé les scènes de danse du bosquet historique du Théâtre d'Eau en grand bassin. Et donc j'ai dessiné en 3D, on pourrait dire aujourd'hui, à travers mes sculptures, ces pas de danse incroyables qu'avait dessiné Feuillet. Et donc quelqu'un qui sait lire la danse baroque, quand il voit mes sculptures, peut vraiment lire le Rigaudon de la paix, l'entrée d'Apollon, voir danser le roi. Et sinon, on voit ça comme des sculptures contemporaines. Mais je vous avoue que c'était très très émouvant le premier jour, quand on est allé avec Louis Bénèche sur site, et qu'on a creusé le terrain de Versailles. Faire un trou dans ce jardin, planter un premier prototype, pour savoir la taille des sculptures. Donc j'avais amené des sortes de barres de fer comme ça, et que j'ai planté dans ce terrain-là, qui était vierge, défriché, puisqu'il avait été complètement rasé par la tempête. Mais c'est resté quand même un moment inoubliable, d'arriver physiquement a marqué un territoire aussi fort au niveau de l'histoire.
Louis XIV n'était pas un Pantin. Le Centre National de la Danse se trouve à Pantin. Et dans cette histoire-là, les belles danses automnielles à Versailles, il y a l'œuvre elle-même sur la fontaine. Et puis, il y a tout le passé. Mais ce passé, c'est un peu le reflet de votre œuvre dans l'eau de la fontaine. C'est tout ce qui est en dessous. Parce que pour qu'il y ait une fontaine, il faut qu'il y ait les coulisses de la fontaine, il faut la tuyauterie, il faut les fontainiers. Et ça aussi, ça fait partie de votre réflexion artistique. Il y a les pas de danse du roi sur l'eau, et puis il y a le trou que l'on creuse.
C'est-à-dire que oui, une œuvre d'art, elle se doit, enfin pour moi, elle se doit d'être magique, elle se doit d'être porter une certaine grâce, et elle se doit d'être légère au sens avoir en tous les cas. Et toute cette ingénierie qui en fin de compte est présente dans mes œuvres est quelque chose qu'on ne devine pas. On ne devine pas toutes ces années, puisqu'on a quand même travaillé 3 ans sur ce projet, ces centaines de câbles et ces grands réservoirs. Mais on a surtout travaillé avec les fontainiers de Versailles. Et ça, c'était extraordinaire parce que c'est une sorte de tradition qui existe depuis Louis XIV et qui n'a jamais cessé, même malgré les guerres, malgré les famines. Les fontainiers ont toujours été là et se sont transmis de père en fils comment faire fonctionner des fontaines à Versailles. Donc c'est une histoire qui s'est transmise oralement et physiquement, puisqu'ils ont montré comment activer tous ces réseaux. Et c'est vraiment, c'était plein de découvertes, ce projet.
C'est un peu en cela aussi que vous, Jean-Michel Autoniel, vous êtes un artisan comme ces fontainiers. L'eau jaillit, mais on ne sait pas trop comment. C'est la magie. Et pour vos œuvres, il y a de ça aussi. Nous les voyons, elles sont là. Elles sont suspendues. On ne comprend pas. Et il y a tout le travail derrière immense. Mais ce travail immense, il ne doit pas se voir.
Il vaut mieux pas. Enfin, si on veut faire rêver les gens, il vaut mieux pas montrer le labeur. Mais il est là. Il est là. On a travaillé beaucoup. On a beaucoup réfléchi ensemble avec Louis Bénèche. Qu'est-ce que ça voulait dire que de faire un jardin contemporain à Versailles? En même temps, on s'est rendu compte, enfin j'ai appris plutôt, dans cette histoire de Versailles, que les jardins avaient toujours évolué, contrairement au château. C'est-à-dire qu'il y a eu un jardin 18e, très beau d'ailleurs, avec justement les caves d'Apollon, ou les chevaux d'Apollon, qui ont été dessinés par Hubert Robert. Et puis après, il y a eu au 19e les jardins des Fables de La Fontaine. Et donc un jardin 20e avait toute sa place. Et donc j'espère qu'il y en aura un au 21e.
Bah oui.
Voilà, moi j'ai fait ça le siècle dernier. Mais c'est un très très beau projet. On a pris beaucoup de plaisir à le faire. Et je suis ravi que ce lieu soit ouvert comme ça au public et que les gens puissent vraiment l'apprécier et s'y perdre.
L'idée est formidable, hein. C'est pas de danse du roi. D'ailleurs, c'était pas trop dur de les reproduire, parce que je suis sûr, Jean-Michel Autoniel, que vous avez essayé à un moment de faire ces pas de danse. C'est pas possible autrement.
Essayer, c'était amusant de voir, oui, quelle calligraphie correspondait au mouvement d'un coude, quel autre au mouvement d'un pied. Mais je pense que tout le monde les a fait sans le savoir. Parce que que les petites filles apprennent, les entrechats, les premières, deuxièmes, troisièmes, où on met les pieds comme ça à angles différents, ont été écrits par Louis XIV et viennent de ses écritures de feuillets.
C'est très beau, hein, d'ailleurs, cette légèreté, cette histoire. Et puis, moi, je veux pas... nous sommes à la radio, les œuvres, nous ne les voyons pas. Moi, j'invite tout le monde à aller directement voir vos œuvres, mais sinon, jeter un œil sur Internet, parce qu'il y a cette magie et puis cette profondeur historique qui nous touche particulièrement sur France Culture dans le cours de l'histoire. Vous l'avez bien dit, Versailles, c'est un jardin qui évolue. Il y a des changements. C'est cette évolution qui nous intéresse en histoire.
La cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême est l'un des plus beaux spécimens de l'art romano-byzantin. Elle est également l'une des plus anciennes cathédrales de France. L'édifice actuel date du XIIIe siècle et est dû à l'évêque Girard. Au cours des siècles, de nombreuses adjonctions furent apportées à l'œuvre primitive qui souffrit encore pendant les guerres de religion. Certaines parties et des dépendances de la cathédrale restèrent en ruine jusqu'en 1853, date des restaurations effectuées par l'architecte Paul Abadie, aidé de Mgr Cousseau et de Napoléon III qui en paya une partie. La cathédrale a gardé depuis lors le visage qu'on lui connaît aujourd'hui.
La cathédrale d'Angoulême, présentée dans Poitou-Charentes Actualité en 1972. Jean-Michel Autoniel, vous la connaissez, cette cathédrale qui a évolué, nous l'entendons dans le son. Cette cathédrale qui a évolué, c'est le problème en fait. Au moment où l'on vous appelle, quelle cathédrale regarder? La cathédrale romane, celle qui a été modifiée ensuite, celle du 19e siècle?
Ça, ce qui était très intéressant dans ce projet, quand on m'a contacté, c'était justement se pencher sur une période de l'histoire un peu mise de côté, un peu qu'on ne regarde pas. Et je pense que pour un artiste, c'est toujours intéressant d'aller voir un peu ce qui est à la marge, ce qui est poussé un peu ses limites. Et c'est vrai que dans l'histoire de l'art, le néo-gothique est déjà quelque chose d'un peu compliqué, mais alors le néo-roman, ça touche vraiment très très peu de personnes. Mais cette idée de relever le gant et de se dire, essayons de voir qu'est-ce qui était dit à travers cette période de l'histoire et pourquoi les monuments historiques à l'époque s'intéressaient aussi au fait de restaurer la cathédrale dans son état néo-roman et pas dans son état roman. C'est vrai que moi, je suis arrivé sur un grand projet mené par les monuments historiques qui était de dire, voilà, pour la première fois, on va mettre en avant cette période du 19e siècle qui était un peu mise de côté. Et donc la cathédrale a été entièrement restaurée dans le style néo-roman avec justement le nettoyage des sols, ils ont refait les vitraux, ils ont refait les murs qui sont très très beaux, une sorte de rouge et de blanc comme ça à la chaux, incroyable. Et moi, dans cette idée de relire ce néo-roman, je me suis plongé dans pourquoi le néo-roman et le néo-gothique avaient existé. Et en fin de compte, ils ont existé, je pense. C'est qu'à un moment donné, il fallait redonner du lustre à la religion. Les églises se vidaient. Il fallait que ça devienne un endroit extraordinaire. Et donc, à ce moment-là, le clergé a fait appel aux plus grands architectes et à plein de technologies nouvelles qui étaient... justement l'utilisation du verre, beaucoup, sur la restauration des vitraux qui datent de cette époque. Donc le verre à plat qui a été créé par des grandes usines comme à Saint-Just-en-Rambert, par exemple, on a créé des verres à plat pour faire ces grands chantiers de restauration. Donc il y a une nouvelle technique qui a été redécouverte. Et puis après, il y a eu aussi des choses qui nous semblent toutes simples, mais par exemple l'apparition de l'électricité. Comment faire qu'une vierge... n'est pas une auréole que de métal doré, mais qu'elle ait un peu des petites ampoules au milieu. Il faut imaginer que les gens qui vivaient à cette époque-là vivaient dans des maisons souvent en terre battue, et ils allaient à l'église et ils voyaient justement des sols incroyables faits en carrossiment, par exemple, qui était la chose la plus extraordinaire de l'époque, puisqu'on ramenait la couleur, on ramenait les volutes, le dessin dans le sol, et avec cette réinterprétation de l'art roman, de façon beaucoup plus ludique, telle qu'a pu le faire Abadi dans ses dessins. Et donc moi, je me suis inspiré de toutes ces techniques qui, à l'époque, étaient mises en place, et je me suis dit, je vais réactiver, on pourrait dire, tous ces savoir-faire autour de dessins qui serait une réinterprétation moi-même des dessins d'Abadi qui eux-mêmes étaient une interprétation. Donc on a tout ça autour d'un projet très spécifique au sein de la cathédrale qui n'était pas d'intervenir dans un endroit consacré mais dans un ancien grenier pour y mettre en scène le trésor de la cathédrale qui avait été récolté au cours des siècles et qui était composé d'objets néo-romans, néo-gothiques. Alors la grande liberté que j'ai eue, c'est que dans cette idée d'apparat qui était très forte au 19e, c'est que tout ça a été fait un peu avec de la tôle emboutie et des fausses pierres précieuses qui n'étaient que des petits cabochons de verre. Donc j'avais une certaine liberté morale, en tous les cas, à jouer avec ces éléments qui étaient faussement précieux. C'est-à-dire que j'aurais été beaucoup plus embêté si on m'avait confié un vrai trésor roman ou... avec des cloisonnés, avec des choses très précieuses. Là, on était dans quelque chose d'un peu endormi. Il y avait presque, c'était un peu comme un conte de fées que d'aller retrouver ces objets ternis, avec des cabochons poussiéreux. Et on a travaillé vraiment avec les monuments historiques pour faire appel aux meilleurs restaurateurs et qui ont redonné ce lustre extraordinaire à des encensoirs qui sont comme des soleils, à... des ostensoirs formidables. Et il faut imaginer que tous ces objets, à l'époque, étaient destinés à impressionner. Donc c'était... je veux dire, aujourd'hui, quand vous allez dans le trésor de la cathédrale d'Angoulême, vous voyez vraiment comment ces objets pouvaient être impressionnants. Et à mon avis, ils l'étaient d'autant plus à l'époque, puisqu'ils étaient portés en procession. Donc il faut imaginer au milieu des champs de blé, comme ça... le 15 août, voir ces grands soleils d'or traverser les prairies et les paysans complètement émerveillés par ces objets extravagants. Enfin, faut le dire, il y a une folie au 19e siècle que j'ai beaucoup aimé découvrir. J'ai beaucoup aimé apprendre autour de ça et essayer de lui rendre son panache Et donc, j'ai dessiné les sols, les murs, les vitrines, les vitraux, choisi les objets avec les gens du monument historique pour créer une histoire, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire créer une scénographie. Donc, c'est peut-être la seule œuvre vraiment immersive que j'ai créée, dans laquelle on rentre, on est porté, on va passer d'une salle à l'autre. J'ai fait appel à des savoir-faire incroyables, comme les brodeuses à l'or de Rochefort, que j'adore, qui brodent à l'or depuis Louis XIV, elles aussi, ou c'est les ateliers Loire qui font beaucoup de restauration dans les cathédrales et m'ont poussé à créer une sorte de dentelle de plomb incroyable avec tous ces morceaux, ces cabochons de verre sertis. Non, c'est une vraie folie.
Oui, vraiment.
C'est une vraie folie. Je vous invite à y aller. C'est un peu compliqué, malheureusement. Il faut s'inscrire. On peut venir que par groupe d'une vingtaine, mais ça vaut le coup d'y aller.
Puis sinon, il y a le trésor de la cathédrale d'Angoulême, hein, un petit livre avec des textes d'Adrien Goetz, et l'on voit la merveille. Vous l'avez très bien dit, Jean-Michel Autoniel, hein, cette fascination pour la religion, de montrer les choses, un ostensoir, c'est cet effet waouh. Est-ce que vous le cherchez, vous aussi, cet effet waouh dans vos œuvres? Quand on les voit, on fait waouh.
Moi, j'ai la chance d'avoir des œuvres qui sont très visuelles, qui peuvent être très spectaculaires, comme quand j'ai fait l'escalier justement sur les marches du Petit Palais. Mais non, ce que je cherche, c'est que les gens se laissent emporter peut-être par la beauté, pour après découvrir que derrière cette beauté des matériaux, il y a des histoires peut-être plus profondes, plus graves. Quand je fais un hommage aux exilés cubains avec un bateau de larmes, par exemple, ou quand je crée des grands colliers rouges accrochés dans les arbres en hommage aux personnes décédées du sida, il y a quand même derrière toute cette beauté des messages un peu plus tristes, mais qui sont aussi les messages de notre monde. Je pense que quand on est face à l'histoire, on est aussi face à des moments peut-être graves. Aujourd'hui, on est face à la guerre, par exemple. C'est des choses qu'il faut savoir regarder et qu'il faut savoir essayer d'en parler sans pour autant ne pas apporter une dose d'espoir, ce que j'espère faire à travers mes œuvres.
Ce que vous faites, Jean-Michel Autoniel, et dans ce regard que vous avez sur le présent, l'artiste que vous êtes plonge dans le passé. C'est le cas de la vague. La vague, c'est ça, c'est cette vague liée à des événements dramatiques présents et aussi un clin d'œil au passé, parce qu'on pense facilement au Kousaï.
Oui, la vague, c'est un grand projet que j'ai fait, qui m'a pris plusieurs années, qui était de réaliser une vague à taille réelle construite de briques de verre. Donc, en même temps, c'est l'idée d'une chose figée, c'est-à-dire que c'est ce tsunami qui s'arrête et que peut-être le pouvoir de l'art a permis de s'arrêter dans l'espace. Et en même temps, c'est une construction, c'est l'idée de se reconstruire. La brique, qui est vraiment un langage commun à tellement de civilisations, qui permet de se reconstruire et reconstruire de nouveaux projets.
Et puis, c'est une brique qui nous permet de faire un voyage. C'est ça qui est particulièrement étonnant, c'est que dans cette histoire-là, nous parlons du Japon, mais les échos à la brique, ce sont des échos de verre qui nous conduisent jusqu'en Inde. Pourquoi l'Inde ?
Alors, l'Inde, c'est un pays que je rêvais de visiter depuis toujours, et je rêvais de travailler avec des verriers indiens. Mais ça a été très très compliqué, j'y suis pas arrivé. Pendant 7 ans, j'ai essayé, j'ai frappé à la porte de tous ces petits villages et jamais j'ai réussi à rentrer. Et un jour, l'ambassade de France en Inde voulait reprendre mon exposition qui était au Centre Pompidou. Et je leur ai dit non, moi je veux pas envoyer des œuvres là-bas, je veux aller travailler là-bas. Donc organisez-moi ce séjour chez les verriers indiens dans le désert, vers le Taj Mahal à côté d'Agra, dans un endroit incroyable, perdu, où la plupart ne parlent pas anglais. Et donc l'ambassade m'a permis de partir là-bas, de rester pendant plusieurs mois et de travailler avec ces verriers, de découvrir la beauté de cette technique ancestrale, puisqu'ils souffrent, ils soufflent aussi le verre comme il y a 2000 ans. C'est-à-dire que le verre est fait de cette magie de mélanger simplement du sable avec des minéraux, et donc on a des couleurs pas forcément stable, un peu changeante, mais très très sensuelle. Et surtout, ce qui m'a touché, c'est que le long des routes, en me promenant, en allant jusqu'au fin fond de ce désert, j'ai remarqué qu'il y avait le long des routes des piles de briques en attente, comme ça. Et j'ai posé la question à mon traducteur. Je lui ai dit, mais pourquoi ces briques? Il m'a expliqué qu'en fin de compte, les Indiens achetaient d'abord un terrain. Et puis après, en fonction de leurs revenus, achetaient brique par brique jusqu'au jour où ils auraient assez de briques pour construire leur maison. Et ça a été comme une révélation pour moi. Je me suis dit, ces briques, c'est vraiment une pile d'espoir. C'est vraiment une chose que tout le monde a en tête, a envie un jour de construire sa propre maison, qu'on soit indien ou pas. Et donc, quand je suis arrivé dans ce village, au fin fond du désert, je leur ai dit, voilà, je veux faire une brique de verre. Et donc, on a travaillé avec des gens sur place pour arriver à créer cette brique de verre qui est en même temps ce symbole d'un rêve qu'on a en soi, construire sa propre maison, et en même temps qui est une brique fragile, donc qui ne peut pas être utilisée pour être dans un élément de construction. Donc elle a cette espèce de double. En même temps, on a l'impression qu'on va pouvoir construire, mais en même temps, elle peut s'effondrer sur elle-même si on l'empile. Donc ça a amené tout un travail d'ingénierie derrière ces briques pour arriver à en faire quand même des monuments, d'où cette vague qui est née. Donc il y a 10 000 briques de verre qui sont suspendues dans l'espace sur une énorme structure en métal comme un nid d'abeilles qui vient enchâsser toutes ces briques. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à apporter cette magie indienne ici en Europe et aux États-Unis et dans d'autres pays, et de montrer justement ce que je cherchais dans le verre indien, c'est-à-dire toute cette poésie liée à l'émerveillement, au merveilleux, puisque le verre, en fin de compte, c'est un peu toujours la même recette à travers le monde, mais les pays, selon leur culture, selon leur histoire, y mettent des choses totalement différentes. C'est-à-dire que l'Inde y apporte toute cette fascination que pouvaient avoir les Maharajas pour des coupoles lumineuses, des coupoles qui reprenaient cette idée du soleil diffracté à l'infini, avec ses mobiliers de cristal qu'on trouve en Inde aussi. Enfin, il y avait tout cet univers lié au conte et aussi aux bijoux qui est très fort en Inde. C'est-à-dire qu'il y a ce rapport à... Et notamment, il y a un village à côté de celui où j'ai travaillé qui est formidable, où ils font des copies de pierres précieuses en verre. Et donc, vous promenez dans des petites maisons comme ça et vous voyez des gens habillés de façon divine, assises sur des fausses piles d'émeraudes, des fausses piles de rubis, enfin des vraies piles, mais de faux rubis plutôt, ou de fausses émeraudes. Et ça, c'est vraiment des images de contes de fées, oui.
Et dans ce conte de fées, il y a la magie du verre. Pour ces briques de ces souffleurs indiens, il n'y a pas qu'une brique dans une briquette, c'est-à-dire que le moindre mouvement que l'on peut faire autour de la brique la change complètement par la les pigments, je ne sais pas quelle est cette magie qui fait qu'elle bouge sans arrêt.
Oui, les œuvres d'art en général sont vivantes, c'est ce que je crois. Je crois qu'il y a cette force de vie qui est dans les œuvres d'art. Mais ce qui est très beau aussi en Inde, c'était aussi, tout à l'heure j'ai fait ce lapsus en disant souffre, souffrir, souffleur. Il y a quand même ce rapport à un corps engagé, souffrant. Et j'avais envie de montrer à travers les œuvres que je fais, qu'il y a quand même un peuple derrière ces œuvres, et un peuple qui lutte, si je peux transmettre leur image à travers le monde, ça peut être formidable. Et d'ailleurs, on avait fait une très très belle exposition à Delhi, où j'avais ramené tous mes souffleurs de verre qui n'étaient pour la plupart jamais venus à la capitale. Donc il y a quand même cette visibilité que je peux apporter aussi à certains corps de métier en train de disparaître grâce à l'art. Et ça, j'aime être parfois le messager de ça.
Jean-Michel Autoniel, tout comme je vous imagine essayer les pas de danse de Louis XIV, ce sont les belles danses à Versailles, avez-vous essayé d'être souffleur de verre en Inde? Vous avez essayé de reprendre leurs gestes?
Alors en Inde, c'était très très difficile. En Inde, j'étais parti avec un verrier avec qui je travaille depuis longtemps pour justement essayer de parler à travers le savoir-faire. Et ça avait très bien marché. D'ailleurs, on avait réussi à créer un contact à travers cet échange physique, je dirais. Mais moi-même, non, on m'a poussé à souffler une seule fois. C'est quand j'ai enseigné à Hawaï. C'était aussi un moment extraordinaire parce que j'avais été invité à l'université de Hawaï pour parler de mon travail sur le verre. Et les jeunes verriers qui étaient là autour de moi ne comprenaient pas pourquoi je soufflais pas moi-même. Donc je leur ai dit que moi je cherchais des virtuoses plutôt que moi-même en devenir un, parce que si on veut devenir un souffleur de verre, il faut changer de vie, c'est-à-dire qu'il faut se lever tous les matins à 5 heures, souffler jusqu'à 4 heures de l'après-midi et faire ça pendant 20 ans avant d'être capable de pouvoir souffler une des perles qui constitue mes œuvres. Donc j'ai plutôt fait le choix de m'adresser à des virtuoses et de, comme je disais tout à l'heure, de les diriger un peu comme un chef d'orchestre, plutôt que de devenir souffleur moi-même. Mais j'ai essayé et je peux vous dire que c'est très très difficile. Et du coup, je sais que je ne serai jamais souffleur de verre.
Ces virtuoses, nous les retrouvons aussi à Murano.
Au milieu de ceux qu'on appelle les servants, ils sont deux. Deux à être assis à la table des maîtres. Et même à l'heure de la pause, le silence se fait quand le maître parle.
Murano est une île minuscule, alors comme on est très peu, on se connaît tous depuis qu'on est gamin. On est même capable de connaître la vraie valeur de chacun d'entre nous.
Murano, en face de Venise, est une île où l'eau et le feu ont toujours existé. Lequel des deux s'est installé en premier? Même dans le livre des secrets, dans les livres des maîtres, rien n'est écrit à ce sujet. Mais peu importe de savoir lequel des deux est arrivé après l'autre. L'essentiel pour Murano est que leur mariage, vieux de plusieurs siècles, dure. Et que personne ici ne voudrait assister à leur divorce.
Les maîtres de Murano, présentés dans l'émission Faut pas rêver en 1994. Qu'est-ce que c'est, Murano, pour vous, Jean-Michel Autoniel?
Murano, c'est déjà une découverte enfant, où j'étais allé avec mes parents en Italie. Et je me rappelle de cette verroterie... justement, qui scintillait un peu partout, et de ces ateliers où j'avais pu voir des souffleurs de verre, mais vraiment quand j'avais 6-7 ans, et ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Mais c'est surtout un lieu unique au monde, puisque, comme il est dit dans le reportage, ce sont des familles qui sont là depuis des siècles et qui se transmettent à travers le geste un savoir-faire qui leur permet aujourd'hui de faire un lustre comme on le faisait au XVIIIe siècle, parce que Le corps du verrier est une machine. Il apprend pendant des jours et des années à répéter un geste. Et une fois qu'il le connaît, il sait le répéter à l'infini. Et il retransmet ça de génération en génération. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable à voir. C'est cette histoire qui passe à travers le corps. C'est vraiment le corps qui transmet... le savoir-faire, mais aussi la culture et aussi l'histoire, puisque aujourd'hui, si tous ces objets sont encore là et nous parlent encore aujourd'hui, c'est qu'il y a des générations de souffleurs qui se sont transmis le même geste. Mais c'est aussi un lieu assez incroyable, parce que ce qui n'est pas dit dans le reportage, mais ils sont tous là ensemble sur cette île, c'est qu'un jour, les doges de Venise leur ont dit... si nous ne voulons pas que la Sérénissime brûle, donc on va tous vous mettre ensemble sur une île, et si vous brûlez, vous brûlerez ensemble. Donc ils ont été mis à part, ils ont été mis de côté, et en même temps de ça, ils ont pu avoir leur propre doge, leur propre monnaie. Ça a été un moment assez extraordinaire, et leurs propres secrets qui sont très très importants à Venise. Venise qui souffre énormément en ce moment, puisque le gaz étant ce qui fait tourner toutes ces usines de verre, il faut s'attendre à ce que beaucoup disparaissent. Et que tout à l'heure, quand je parlais de la guerre, je crois que nous, aujourd'hui, en tant qu'artistes, on est aussi impactés par cette situation mondiale. Et notamment, les verriers, les artisans qui travaillent le feu le sont énormément. Donc, on a une responsabilité, je pense, je dis on, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes travaillent le verre. Ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé il y a 20 ans. Parce que du coup, Murano était un endroit très où il se passait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de commandes, et puis tout ça a un peu disparu, et les verriers de Murano ont fait de plus en plus appel aux artistes. Mais je pense qu'il y a une vraie responsabilité de sauver ces savoir-faire et de sauver cette histoire du geste. Il faut que ce geste continue si on veut, dans 100 ans encore, savoir faire un lustre comme on le faisait il y a 200 ans.
Avec ces gestes reproduits par ces artistes mais artisans, dans le même temps, quand vous arrivez, vous, artiste, en demandant quelque chose de très particulier, quelle est la réaction? C'est un intérêt, genre, mais comment on va faire? Attends, faut trouver une solution. Ou alors, oulala, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là encore?
Alors, ça a beaucoup changé. Moi, quand je suis arrivé à Murano en 97, quand j'ai fait mon exposition au Peggy Guggenheim à Venise, j'ai pu avoir accès à ces verriers grâce à des bienfaiteurs du musée qui m'ont permis d'entrer dans les fornaces, comme on les appelle. Et là, j'ai été reçu un peu me disant, mais qu'est-ce qui nous vaut celui-là, quoi? Ils comprenaient pas trop pourquoi un artiste s'intéressait à ce matériau, puisqu'eux étaient dans une logique de production, puisqu'ils avaient ce geste qu'il fallait perpétuer. Et puis petit à petit, grâce à ces amis vénitiens, j'ai pu tout doucement pénétrer le monde des verriers. Et je travaille avec les mêmes verriers depuis le kiosque des Noctambules, place Colette, c'est-à-dire il y a 22 ans. Et grâce à eux, j'ai pu rentrer aussi dans cette magie du verre vénitien.
Ah oui, parce que alors là, ce kiosque des Noctambules, il y a 22 ans déjà, c'était en l'an 2000, c'est la station de métro. Bien sûr que nous croisons, c'est à côté du Conseil constitutionnel, c'est le Palais Royal. Ce kiosque des Noctambules, c'est un écho au métro, bien sûr, avec un écho artistique par Salvador Dalí.
Vous aimez beaucoup les portes d'entrée de métro, Salvador Dalí. Je crois d'ailleurs que la ville de Paris va vous en offrir une.
Parce que c'est des holographies. J'ai fait une étude cybernétique et par exemple... les portes d'entrée, enfin les deux images, avec les deux tulipes, reconstruites d'une façon absolument photographique, l'Angelus de Millet, que vous savez que c'est une de mes passions, une des gloires de la peinture française, de même que Van Gogh, c'est une des hontes, pas seulement de la peinture française, mais de la peinture universelle. Je remercie la ville de Paris de m'offrir ces portes qui vont au musée de Figueras, qui doit être le centre spirituel de l'Europe. Et je vous dis comme dernière nouvelle que maintenant que le prolétariat est en train de s'évaporer, puisqu'il n'y en a plus, bientôt il n'y en a plus d'ouvriers, Dalí va faire un hommage à la classe ouvrière.
Merci Salvador Dalí.
Bonjour.
Oui, merci beaucoup Salvador Dalí en 1972 à propos du métro Guimard. Jean-Michel Autoniel, donc cette place Colette devant la Comédie Française. D'ailleurs, pourquoi a-t-il été possible de créer une œuvre, ce kiosque des Noctambules, à cet endroit-là? Parce que les stations Guimard que nous connaissons bien, ce sont les belles stations parisiennes, elles restent, elles sont classées. Pourquoi ici c'était possible?
Alors déjà, cette place n'existait pas en l'an 2000. C'est un projet qui est né quand j'étais à Rome, à la Villa Médicis. Donc j'ai commencé à dessiner, c'était un concours qui avait été lancé, et j'ai commencé à dessiner une station de métro, puisque quand on m'a demandé de participer, j'étais le plus jeune de ce concours, je me suis dit, de toute façon, je ne l'aurais pas. Donc autant proposer un rêve, et donc l'image que j'avais du métro était justement... cette station spirituelle, comme dit Dalí, ce lieu incroyable que sont ces bouches de métro de Guimard. Et donc, j'ai eu envie de rendre hommage à Guimard, à ce souvenir que j'avais, moi, étant loin de Paris, vivant à Rome. J'ai dessiné un petit kiosque que j'ai envoyé. Et il se trouve que ça s'est rentré en collision avec l'histoire même de la RATP, cette histoire de Guimard qui a été imposée par l'ancien président de la RATP, qui a balayé tous les petits kiosques qui devaient être des entrées de métro en 1900 pour y imposer un jeune architecte nouveau avec des formes libres, cet art nouveau qui est né à cette époque-là. Et donc j'ai eu envie de me placer à cet endroit parce que la RATP, puisqu'on fêtait les 100 ans du métro, voulait être sur cette ligne 1. Et il se trouve que devant la Comédie Française, il y avait une petite sortie de métro au milieu d'un carrefour avec des bus qui tournaient autour. Et cette entrée de métro, c'est assez incroyable parce qu'elle n'avait jamais été classée. C'était une petite balustrade néoclassique. Et puisqu'à l'époque, en 1900, les ultra-réactionnaires avaient dit surtout pas devant la Comédie Française, on ne veut pas de ces horreurs de Guimard qui sont cette arnouille, comme on l'appelait à l'époque. N'y amenez pas vos jeunes filles parce que ça va leur donner des idées, des mauvaises idées. Donc, il y avait toute une polémique autour de ces entrées que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire quand j'ai fait ce projet. Et donc, ces ultra-réactionnaires avaient protégé cette entrée en y mettant une vulgaire petite balustrade. Et donc, moi, arrivant 100 ans après, j'ai pu intervenir sur cette petite entrée, puisqu'elle n'avait pas été classée, contrairement aux Guimard, qui, eux, étaient rentrés dans la grande histoire de l'architecture et de Paris, et qui, eux, sont tous classés depuis les années 70. Et donc, Donc voilà, et donc je me suis retrouvé sur ce petit rond-point entouré des bus, et finalement on a décidé avec la RATP et la ville de Paris de créer une place, une petite placette qui entoure ce kiosque et qui crée une sorte de place un peu à l'italienne d'ailleurs. Donc c'est peut-être mes influences romaines. Où il y a donc les cafés, les terrasses de café sont agrandies. J'ai travaillé sur le pavement et c'était pour moi très émouvant que d'intervenir sur la ville elle-même. C'est très rare pour un artiste de pouvoir intervenir sur la ville, changer un bout de ville et surtout à cet endroit. Et du coup, c'est devenu l'entrée de la Comédie Française. La Comédie Française a changé son entrée. Elle s'est ouverte sur cette place et maintenant, plus personne ne sait vraiment que c'est moi qui l'ai fait. C'est rentré dans l'histoire.
Oui, c'est ça. C'est très intéressant quand l'œuvre d'art fait partie du quotidien, comme les œuvres de Guimard. Et vous avez raison de souligner mais l'audace des dirigeants du métro parisien au début du XXe siècle d'appeler un artiste. L'audace pour l'art, mais l'art lié à la ville, l'art qui s'inscrit dans la ville, c'est quand même, alors il y a une limite, hein, on le sent bien que pour certains il y a des réactions gigantesques, mais là c'est pour ce kiosque des Noctambules un moment particulier. Vous l'avez vécu comment, la réception, parce que tout a été dit autour de cette œuvre, vous le dites aujourd'hui, elle fait partie de ce patrimoine de notre univers parisien.
Bah moi je l'ai vécu au début, il y a eu une petite polémique mais qui s'est très vite éteinte. Dans le sens où je crois que le fait qu'on ait changé un morceau de Paris et qu'on en ait fait un endroit justement où il n'y avait plus de voitures, il y avait, et puis je crois que la proposition de réenchantement du monde qui était dans ce projet a beaucoup plu au public à un moment donné où justement on rentrait dans un nouveau siècle, il fallait croire à un avenir meilleur. Alors espérons que nous ayons toujours cette volonté de croire à un avenir meilleur, mais c'est ce qui était dit à travers ce projet. C'était vraiment sortir de terre, passer de l'ombre à la lumière, sortir du métro comme étant un endroit sombre pour aller sous ces coupoles de verre qui, elles, vous illuminent et vous portent vers un soleil qui se lève, puisqu'on sort vers le soleil levant. Donc, il y a quand même un message d'espoir dans ce projet, et je crois que c'est ce que le public a très vite compris. Et c'est très vite réapproprié la chose. Et d'ailleurs, aujourd'hui, souvent, quand je croise des gens, les gens me disent « Ah, mais vous êtes le fils du sculpteur qui a fait cette... » Je dis « Bah non, 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 c'est moi, il y a 22 ans. » Parce que c'est rentré vraiment dans un univers, c'est rentré dans les guides sur Paris, c'est devenu un petit monument qui reste justement de ce passage en l'an 2000.
Réenchanter le monde, c'est magnifique ce que vous venez de dire. Et bien justement, sort de cette station Palais Royal, donc le kiosque des Noctambules. Nous avons qu'à traverser la rue de Rivoli et nous y sommes. Voici le Louvre.
Un bruit étrange court dans Paris. Il y aurait dans le Louvre un fantôme. C'est tout au moins ce que prétend le gardien Gautret qui l'aurait aperçu au cours d'une ronde. Personne n'y croit. Mais le gardien-chef, Sabourel, que l'on découvre assassiné, commence à donner de la consistance à cette nouvelle. Un jeune étudiant, André Bellegarde, fasciné par cette histoire, réussit à se faire enfermer dans le musée. Vers minuit, il voit un enfant se faufiler dans les couloirs et se livrer à une opération mystérieuse sur la statue du dieu barbare, Belphégor.
Jean-Michel Othoniel, je ne sais pas si vous avez croisé le gardien Gautret. Ah ben non, c'est pas possible. Ben non, parce que c'est en 1965, Belphégor, et vous aviez seulement un an. Donc vous ne les avez pas croisés, ces gardiens-là. Belphégor ou le fantôme du Louvre, évidemment, la série de Claude Barma. Parce que le Louvre, c'est aussi, évidemment, en tant qu'artiste, un moment particulier d'inspiration, de création, de réflexion. Et en tant qu'individu, pour vous, c'est aussi un petit job.
Oui, c'était la façon de payer mes études quand j'étais étudiant. J'étais gardien au musée du Louvre, de jour comme de nuit, donc à la recherche de Belphégor peut-être, mais c'était un moment extraordinaire parce que le Louvre, c'est le plus grand musée du monde et c'est le plus grand livre ouvert au monde, c'est-à-dire qu'on y apprend tellement de choses. Et moi, j'étais peut-être le plus mauvais gardien du monde aussi, puisque je ne faisais que de regarder les œuvres. On changeait chaque jour de salle, donc chaque jour une nouvelle histoire à découvrir et à s'imprégner des œuvres. C'était un moment exceptionnel dans mon parcours et j'ai pris beaucoup de plaisir à être gardien au Louvre et surtout j'ai pris beaucoup de plaisir à y revenir 30 ans plus tard quand quand on m'a demandé de célébrer cette pyramide qui n'existait pas quand j'étais gardien au Louvre, parce que moi j'étais dans le vieux Louvre quand j'étais gardien, et donc je suis arrivé sur ce projet, et quand on m'a demandé comment pouvoir fêter cet anniversaire, j'ai eu envie de reprendre mon Herbier merveilleux, qui est un projet que j'avais commencé avec Actes Sud il y a quelques années, et puis que j'avais illustré de photographies au départ, puis après mon séjour à Boston, justement, où Isabella Gardner, je l'avais illustré de photographies, et au Louvre, j'ai repris ce projet en plongeant dans les détails des peintures du Louvre, et je suis pendant un an, tous les mardis, je suis allé au Louvre faire des photographies de tableaux pour illustrer les petits récits que j'avais collectionnés depuis mon adolescence, puisque depuis mon adolescence, je suis fasciné par l'histoire de la symbolique des fleurs dans la peinture ancienne. C'est une chose qui m'a toujours émerveillé. Pourquoi un coquelicot? Pourquoi une Véronique, enfin, toutes ces choses-là. Pourquoi elles étaient si présentes et au pied des saints ou dans des représentations plus laïque, pas forcément religieuse. Et donc j'ai toujours cherché, j'ai toujours noté, et un jour j'ai publié donc toutes ces notes autour de ce petit livre qui s'appelle L'Herbier merveilleux, qui est le seul livre que j'ai écrit vraiment.
Oui, c'est ça.
Mais ça m'a beaucoup beaucoup passionné, et l'illustrer avec des détails de tableaux du Louvre, ça c'était un plaisir unique, c'était formidable.
Et puis le résultat est merveilleux, hein. C'est herbier. Votre herbier merveilleux, des notes sur le sens caché des fleurs du Louvre. Dans cette histoire, Jean-Michel Autoniel, il y a beaucoup d'eau, hein. Il y a ces fontaines à Versailles, il y a cette vague, vous l'avez évoqué, il y a Murano, bah oui, c'est une île. Et puis, il y a le facteur cheval, parce que le Louvre, c'est tant et tant d'artistes, c'est gigantesque. Et puis, il y a ce palais idéal du facteur cheval, où c'est un artiste, et vous êtes emparé. Et là aussi, c'est un rêve d'eau, encore, rêve de l'eau du facteur cheval, c'est le titre de l'ouvrage. Pourquoi rêve de l'eau? Pourquoi l'eau avec le facteur
Alors,
cheval?
Alors, le facteur cheval, c'est un lieu que je connaissais depuis mon enfance, qui est un lieu où je suis, étant de Saint-Étienne, comme vous l'avez dit, je passais mes vacances, j'ai passé 18 ans de ma vie à côté dans la Drôme, tous les week-ends, et donc le facteur cheval était une destination d'enfants. Et chose que j'ai découverte quand on m'a proposé d'exposer au Palais du Facteur Cheval pour fêter les 110 ans pardon, de la mort du facteur, je me suis rendu compte que ces façades, ce grand caillou composé de milliers de cailloux récoltés par ce facteur au cours de ses tournées, avec cette féerie, cet abécédaire venant du monde entier, enfin, c'est un lieu exceptionnel qui a inspiré beaucoup d'artistes, dont Dali d'ailleurs. Je me suis rendu compte qu'en fin de compte, ces façades étaient destinées à être animées par l'eau, puisque j'ai trouvé la lettre de la bonne du facteur qui se plaignait d'être passé ses journées cachées dans une tour, acheter des seaux d'eau pour émerveiller les visiteurs, et donc l'eau ruisselait sur ces façades, et donc j'ai pris conscience que toute cette architecture faite de courbes, de contre-courbes, étaient en fin de compte destinées à recevoir des rigoles d'eau qui coulaient. Et donc j'ai eu envie de faire des fontaines qui rappellent cette présence de l'eau et qui rappellent ce rêve du facteur qui était que son palais soit une grande fontaine.
C'est ça qui est très joli. Ça veut dire que dans la démarche de l'artiste, il y a aussi travail d'historien. Évidemment, vous êtes plongé dans l'histoire de ce palais idéal, mais il y a la compréhension. Ça apporte de la compréhension. Le facteur cheval imaginait une fontaine.
Oui, c'est-à-dire que il n'y a pas de règle pour être artiste contemporain. Hein. Mais moi, j'aime puiser dans l'histoire. J'aime aller chercher dans le passé pour créer des formes nouvelles. Moi, je suis pas un artiste de la fracture. Je suis un artiste de la continuité. Je suis un artiste qui va chercher ses racines dans le passé. Ça existe beaucoup en musique, par exemple la musique baroque est réinterprétée aujourd'hui et les musiciens vont chercher dans le baroque, dans cette musique, qu'est-ce qui est contemporain aujourd'hui. Moi j'ai un peu ce même regard, c'est-à-dire que j'aime me nourrir d'histoire pour souvent faire découvrir les richesses d'un, et là c'était le cas, d'un bâtiment qu'on avait oublié en fin de compte.
Oui, c'est redonner à voir les choses. Merci beaucoup Michel Autoniel. Ah si, l'eau a évoqué pour terminer, c'est l'O, mais la première lettre de votre nom, l'Otoniel. Bah oui, parce que comme ça, quand les gens vont chercher dans les rayons, nous sommes plutôt dans le monde de l'art, des bibliothèques, et ils trouveront tous ces ouvrages. Le kiosque des Noctambules, il y a L'Herbier merveilleux, bien sûr. Le rêve de l'eau, on vient de l'évoquer. Il y a ces belles danses de Versailles, il y en a tant et tant. Mais surtout, il y a vos œuvres que l'on peut voir dans la rue, là, comme ça, en se baladant. Et ça, c'est, il y a cette démarche qui nous plaît beaucoup dans le cours de l'histoire. Merci vivement, Jean-Michel Otoniel.
Merci à vous, merci pour cette invitation.
Et nous poursuivons notre réflexion sur l'histoire avec le pourquoi du comment de Gérard Noiriel.
Pourquoi Nicolas Chauvin n'a pas inventé le chauvinisme ? Sur un site internet qui se donne pour mission d'aider les citoyens à se forger leurs propres convictions en leur apprenant à être sceptiques, j'ai découvert récemment que le mot « chauvin » avait pour origine, je cite, « le nom de famille de Nicolas Chauvin, soldat de la Révolution française, puis de la Grande Armée de Napoléon Ier ». J'avoue que cette définition m'a laissé sceptique, car j'avais lu dans une thèse que ce chauvin-là n'avait jamais existé. C'est un personnage inventé de toutes pièces dans une légende militaire datant du Premier Empire. Elle raconte qu'il aurait perdu 3 doigts et un morceau de crâne, mais qu'il aurait, malgré tout cela, courageusement défendu son pays. Le terme « chauvinisme », utilisé pour désigner le patriotisme excessif de Chauvin, commença à circuler sous la monarchie de Juillet grâce à des pièces de théâtre comme « Les aides de camp » de Bayard et du Manoir, avant de se fixer dans des ouvrages et des dictionnaires. À vrai dire, le fait que ce personnage ait existé ou non n'est pas vraiment très important d'un point de vue historique. Ce qui compte, c'est de mieux comprendre comment des représentations collectives construites dans les siècles passés peuvent encore imprimer leur marque sur notre présent. Même si le théâtre populaire présentait souvent Chauvin comme un individu comique ou naïf, ce personnage de vaudeville incarnait un stéréotype que les élites de l'époque appréciaient pour des raisons politiques. Le mythe du soldat laboureur était très ancien, puisqu'il avait été incarné dès l'Antiquité à travers la figure de Cincinnatus, un aristocrate du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui serait devenu paysan, puis se serait dévoué pour sauver sa patrie. Au début du 19e siècle, ce mythe fut mis à profit par les gouvernants pour célébrer les vertus d'une France rurale et artisanale par opposition à l'Angleterre, le pays qui était alors bouleversé par les débuts de la révolution industrielle. Jusqu'à la fin du Second Empire, la conviction que les révolutions politiques se produisaient toujours dans les villes, et d'abord à Paris, incita les dirigeants à freiner l'exode rural en vantant les mérites de ce brave paysan patriote. Les Républicains, qui s'emparèrent du pouvoir à partir des années 1870, étaient issus, pour la plupart, d'une bourgeoisie urbaine qui méprisait ceux qu'ils appelaient les « ruraux », alors synonyme de réactionnaire. Mais comme ceux-ci formaient encore la majorité des électeurs et que le prolétariat industriel commençait à ruer dans les brancards, le pouvoir républicain finit lui aussi par promouvoir la figure du laboureur patriote. La masse paysanne, instantanément transformée pour l'occasion en une armée de petits propriétaires indépendants, fut dès lors présentée comme l'ultime rempart face au péril révolutionnaire. C'est à ce moment-là que l'extrême droite nationaliste s'empara du stéréotype incarné par Chauvin pour exalter les racines terriennes du peuple français contre les métèques de tout poil. Le chauvinisme devint alors l'une des dimensions essentielles du nationalisme. C'est ce thème que le régime de Vichy poussa à son comble en exaltant la figure emblématique de Philippe Pétain, le maréchal paysan.
Voilà, c'est plus clair. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Une émission préparée par Mayouen Guizhou, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Vudès, Jeanne Copet, Violette Ruiz. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.